Aïe.
Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 24 février. Bonsoir à tous. C'est une nouvelle semaine au nom de l'actualité internationale qui s'ouvre dans la session soirée de l'info sur RFI avec un grand titre ce soir, les 3 ans, de l'invasion russe en Ukraine. Les temps forts des 3 heures à venir sur RFI. Dans 10 minutes, ce sera le décryptage. Véronique Rigolet. Évidemment, dans ce contexte d'une recherche de la fin de la guerre en Ukraine, il y a cette inquiétante alliance entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui bouleverse le monde.
Oui, pourquoi le président américain courtise-t-il autant son homologue russe au point d'en adopter sa rhétorique et de traiter le président ukrainien de dictateur? Le dégel des relations entre les deux superpuissances américaines et russes est-elle durable et menace-t-elle l'avenir du continent européen? On en parle ce soir avec nos invités, l'ex-ambassadeur de France en Russie, Claude Blanchemaison, et notre correspondant en Géorgie, Régis Jantet, auteur de Trump dans la main des Russes.
À tout à l'heure, Véronique. Juste après, ce sera le débat du jour. On évoquera le sort des Européens dans les négociations pour parvenir à la paix en Ukraine. Des Européens qui sont écartés par l'administration Trump, qui mise sur des pourparlers directement avec la Russie. À quel point l'Ukraine aujourd'hui constitue l'enjeu de la crédibilité européenne? Voilà la question que nous poserons. Ou comment Bruxelles peut s'imposer à la table des discussions? Rendez-vous dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. 18h30 TU, Afrique Soir. La première édition de ce lundi, 19h10 temps universel, votre session reportage sur RFI pendant 50 minutes avec un accent d'Europe qui sera spécialement à l'occasion des 3 ans de l'invasion russe en Ukraine. Témoignage du réalisateur Ole Sentsov. Nous serons également en Pologne auprès des réfugiés ukrainiens. Enfin, le grand reportage 5 ans après 3 ans de guerre, des Ukrainiens aujourd'hui qui sont résignés.
RFI.
Voilà pour le programme. Mais pour l'heure 17h02, temps universel, c'est le journal de Gilles Moreau.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Gilles, et à la une, 3 ans de guerre en Ukraine donc.
Oui, c'était il y a tout juste 3 ans, la Russie lançait une offensive qui a fait à ce jour des dizaines de milliers de victimes et amputé l'Ukraine de 20% de son territoire. En ce jour anniversaire, Volodymyr Zelensky réclame une paix réelle et durable cette année. Le président ukrainien l'a dit aujourd'hui à Kiev, en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers venus physiquement ou à distance réaffirmer leur soutien. Son pays ainsi que l'Europe doivent être à la table des négociations, a-t-il insisté, on l'écoute.
La guerre contre l'Ukraine se poursuit et l'Ukraine doit donc être à la table des négociations avec l'Europe. La cible stratégique de la Russie est l'Europe, le mode de vie européen. Et donc sa sécurité et le sort de l'Europe ne peuvent être déterminés sans elle. L'Ukraine, l'Europe, avec l'Amérique, nous devons être à la table des négociations face à la Russie.
Emmanuel Macron, lui, n'est pas à Kiev ce lundi, mais à Washington, reçu à l'heure qu'il est par Donald Trump. Le président français a, je cite, l'Élysée, des propositions à faire pour conjurer la menace russe en Europe et garantir une paix durable, acceptable par Kiev. Située en périphérie de Kiev, la ville de Boutcha est l'un des symboles des atrocités perpétrées depuis le 24 février 2022 par les forces russes. Des exécutions, des meurtres et d'autres violences fatales à des centaines de civils. 3 ans après le début de l'occupation russe, les habitants de Boutcha continuent de panser leur plaie. Reportage de notre envoyé spécial Anastasia Becchio.
Trottoir pavé, pavillon coquet, derrière des palissades neuves, la rue Vokzalnaya n'est plus cette artère aux maisons détruites, jonchée de blindés calcinés dont les images ont fait le tour du monde. Il n'en reste plus rien sinon les souvenirs et la douleur dans le cœur, soupire Yevgeny et Ludmila devant leur maison rénovée.
Quand la guerre a commencé, je me suis dit, ça ne durera que 2, 3, 4 jours. Pendant 15 jours, dans notre cave, on a eu cet espoir. Mais là, on n'a plus d'espoir. On ne croit pas en Trump. On ne croit qu'en Dieu.
Boutcha ne porte quasiment plus les stigmates des premiers mois de l'invasion russe. 95% des bâtiments ont été reconstruits et la ville a retrouvé 97% de sa population, raconte le maire Anatoli Fedorouk. Mais on est encore très loin d'une vie normale.
Les bombardements russes continuent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout le soir. Nous ne retrouverons notre rythme normal que lorsqu'une paix juste et équitable pour l'Ukraine sera définitivement instaurée.
Dans la rue Yablonska, autre lieu de sinistre mémoire, Maria Azamogilina, 77 ans, n'a pas encore pu refaire son portail enfoncé par un char russe. Le souvenir de l'occupation continue de la hanter.
Non seulement j'y pense, mais les drones me le rappellent constamment. Ça me fait trembler et j'ai envie de fuir. J'ai peur pour l'Ukraine et pour nos gens.
À quelques mètres de là, une stèle mémorielle interpelle le visiteur avec ces mots « Ne détournez pas le regard, voyez, souvenez-vous, racontez ». Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
L'économie a toute sa place dans le ballet diplomatique auquel on assiste autour de l'Ukraine. Le gouvernement de Kiev a fait savoir aujourd'hui qu'il était en phase finale de négociations avec les États-Unis sur un accord. Un accord qui donnerait à Washington l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection. Je le disais, Emmanuel Macron est actuellement reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Celui-ci a provoqué un tollé en entamant des discussions avec Vladimir Poutine, sans y associer l'Ukraine ni l'Europe. Au-delà du dossier ukrainien, assiste-t-on à un retournement radical des alliances telles qu'on les connaît depuis des décennies? Question posée dans RFI Midi à Martin Quincé, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis.
Je pense qu'il faut en effet se préparer au fait que l'administration Trump, au-delà même du cas ukrainien, remette en question la manière dont les États-Unis opèrent avec leurs partenaires et leurs alliés. C'est vrai en Europe, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai en Asie-Pacifique. L'OTAN ne sera pas la même à la fin de cette administration Trump, c'est une évidence. Il faut s'attendre à ce que, pour Donald Trump, l'ensemble des relations avec les Européens soient d'abord des relations transactionnelles, où il veut avoir un retour sur investissement direct et rapide, souvent financier, pour continuer à garantir la sécurité de ses alliés. C'est un changement dans la forme et dans le fond de ce qu'a pu être l'Alliance transatlantique depuis plusieurs décennies. Cependant, ça se base sur des critiques que les Américains ont pu faire vis-à-vis des Européens depuis très longtemps. Le fait que les Européens ne participent pas assez à leur propre défense, le fait que finalement les Européens profitent de la naïveté américaine qui paye pour la défense européenne quand les Européens ne financent pas ce fardeau, c'est quelque chose qu'on entendait aussi dans les administrations démocrates ou républicaines passées.
Martin Quincé, directeur du German Marshall Fund, à Paris, il répondait à Anne Cantner dans RFI Midi. Vainqueur des élections législatives, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a toutes les chances de devenir le prochain chancelier allemand. Il doit maintenant lancer des discussions en vue de former un gouvernement de coalition en se tournant d'abord vers les sociaux-démocrates. Les deux partis disposent au final d'une courte majorité de sièges à la Chambre des députés, le Bundestag. Ce sera sans l'extrême droite qui, elle, a doublé son score hier avec 20,8% des voix. L'AfD fait figure de grand favori de ce scrutin. À Paris, le défilé des personnalités politiques se poursuit au Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'était le tour du Premier ministre François Bayrou. En marge du salon, il s'est exprimé sur les relations franco-algériennes. François Bayrou a jugé inacceptable que l'Algérie ait refusé 10 fois de reprendre l'assassin de Mulhouse, comme il l'a appelé. L'homme interpellé après avoir fait 1 mort et 5 blessés était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Haïti vient de connaître un nouveau week-end de violence, notamment dans la capitale Port-au-Prince, où les gangs ont attaqué aussi bien des civils que des forces de l'ordre. Selon les médias locaux, on déplore plusieurs morts, dont celle d'un policier kényan, membre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est la première fois qu'un membre de cette mission est tué en Haïti. Les précisions d'Arim Lipold.
Le policier kényan a été blessé par balle lors d'une patrouille dans le département de l'Artibonite hier dimanche. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. C'est effectivement la première fois qu'un membre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti est tué. La MMAS, qui compte environ 1000 policiers venus de 6 pays, est dirigée par le Kenya qui fournit le plus gros contingent. Mais 6 mois après son déploiement, la mission n'a pas encore réussi à repousser les gangs. Au contraire, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader, comme en témoignent les attaques des gangs ces derniers jours. Plusieurs personnes ont été tuées, dont des brigadiers, lors d'assauts menés en plein centre-ville de Port-au-Prince, selon l'agence Alter Press. Face à cette montée de la violence, la République dominicaine a décidé de renforcer la surveillance à sa frontière avec Haïti. Le gouvernement de Saint-Domingue, qui fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité, réclame aussi plus de financement pour la mission internationale en Haïti.
Enfin, en France, début ce lundi d'un procès exceptionnel, celui d'un ancien chirurgien, une comparée pour viol ou agression sexuelle sur pas moins de 300 victimes. RFI, pratiquement 18h10, ici à Paris, l'information continue avec décryptage.